Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Jean Romance Mokolo, il est journaliste indépendant. Bonjour Jean Romance Mokolo.
Bonjour Guy Maté. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Mike Gardi, lui, n'est pas encore là. Mike Gardi Diana, il va nous rejoindre. Il est journaliste et éditeur du média Les Francs-Tireurs.net et bâtisseur Afrique. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Bonjour Louis Magloire Kemayou.
Bonjour Guy Maté, bonjour tout le monde.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de cette journée d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de cette dernière journée de la semaine.
Radio Okapi vous propose un nouveau programme d'enseignement à distance intitulé Pana Okapi Éducation avec les partenariats de l'UNICEF et le ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Bana Okapi Éducation est à suivre du lundi au vendredi entre 16h et 17h, heure de Kinshasa, sur la fréquence de la paix. Rediffusion samedi de 9h à 11h, dimanche de 10h à 12h. L'enseignement à distance, à la portée de tous les enfants de la République démocratique du Congo, c'est notre raison d'être. On se retrouve donc du lundi au vendredi entre 16h et 17h pour Bana Okapi Éducation. Un rendez-vous à ne pas manquer sur Radio Okapi.
J'écoute pour apprendre avec Radio Okapi.
Radio Okapi, encore plus près de vous.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Jean Romance Mokolo, il est journaliste indépendant. Mike Gardi Diana, il est journaliste et éditeur du média lefranc-tireur.net et bâtisseur Afrique. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais. Il est écrivain et président du club de l'information africaine. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir le Rwanda se retire de la CEAC. Cobalt congolais, force et faiblesse de l'arrêt d'exportation et enfin, problématique des luttes contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de ce énième massacre des civils au Nord Kivu. En effet, au moins 35 civils ont été tués le samedi 7 juin lors d'une attaque attribuée aux rebelles des ZDF à Banlango, une localité située à environ 200 km du centre de Lubero centre. Selon des sources administratives et de la société civile, les assaillants en fuite après une offensive des FRDC ont d'abord assiégé un site minier avant d'y exécuter la majorité des victimes. L'an reste provisoire, plusieurs civils étant toujours portés disparus. Jean-Romance Mokolo, que vous inspire ces nouveaux massacres des civils à Lubero, au Nord Kivu, attribués aux ZDF?
En tout cas, un sentiment de tristesse, Guy Maté. Je me rends compte que depuis pratiquement l'avènement de l'AFDL le 17 mai 1997, nous n'arrivons toujours pas, en tout cas, à recouvrer la paix. Nous avons toujours des problèmes sérieux de sécurité. Et pourtant, en Ituri, par exemple, nous avons l'état de siège qui a été décrété là-bas. Nous avons des opérations conjointes entre les FARDC et l'UPDF et l'armée ougandaise. Et on avait cru qu'avec ce genre d'accord et de coopération militaire avec l'Ouganda, nous allions, en tout cas, recouvrer la paix dans cette partie du pays, malheureusement, que ce soit au Nord Kivu, que ce soit en Ituri, les ADF continuent à semer mort et désolation. Ce qui veut dire que, in fine, nous devons en tout cas nous battre pour construire une armée propre à nous, une armée efficace, une armée dissuasive, une armée forte, capable en tout cas de mettre tout le monde hors de l'état de nuire, plutôt que de continuer comme ça à dépendre des étrangers qui viennent ici et on ne trouve pas vraiment de solution. C'est très déplorable que nos compatriotes puissent continuer à mourir, Guimaté. Ça fait très très mal au cœur et nous devons interpeller les pouvoirs publics et le gouvernement pour que tout soit fait en tout cas pour que ces actes de violence soient éradiqués, pour que la paix soit en tout cas au rendez-vous une fois pour toutes dans cette part de la République.
Merci, Mike Gardi. Diana, est-ce que vous êtes là? Alors voilà, apparemment il n'est toujours pas là. Et Louis Magloire Kemayou, depuis une certaine période, ce genre d'actualité passe comme un fait anodin. Les médias n'en font plus, n'est-ce pas, leur une. Pourtant, il s'agit de 35 vies qui sont fauchées. Dans les contextes américains ou européens, c'est tous les médias qui en parleraient. Et c'est toute la nation, n'est-ce pas, qui se mobiliserait. Comment vous expliquez le fait que les médias ont tendance à négliger ce genre d'actualité?
Tout d'abord, je voudrais exprimer une pensée vraiment très profonde en direction des familles éprouvées, parce que on a souvent tendance à oublier que les chiffres que l'on donne illustrent la douleur de familles qui ont été éprouvées. Et il faut par moments avoir une pensée pour ces familles parce que c'est douloureux de perdre un être. Et l'autre point de vue que je voudrais avoir là-dessus, c'est que on est dans une société où la banalisation est devenue la règle. On a tendance à dire, ce sont des pays qui ont déjà tellement souffert que un mort de plus ou 100 de plus, qu'est-ce que ça change pour eux? Ça, c'est le point de vue que les médias occidentaux ont sur nos pays. Et même si un conflit comme celui de la RDC dure depuis pratiquement 30 ans aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le droit de jeter le voile de l'oubli dessus. Et les premiers qui doivent entretenir la flamme pour que ce ne soit pas banalisé, ce sont nos propres médias. Et le problème, c'est que ce soit en RDC, des médias comme le vôtre ne sont pas légion qui en parlent. Et s'ils n'en parlent pas, vu le peu d'échanges que nous avons entre pays africains, y compris les pays riverains, si nous n'en parlons pas, personne n'en parlera pour nous. C'est à nous de le faire, c'est à nos autorités de mettre la lumière dessus, au ministre de la Sécurité de se rendre sur place, au président de la République ou alors à son premier ministre, d'aller montrer la gravité de la situation et illustrer la solidarité que toute la nation doit avoir vis-à-vis des populations qui ont été éprouvées. Tant que nous ne nous comporterons pas ainsi, nos problèmes seront toujours considérés comme des problèmes mineurs par l'extérieur et nous aurons l'impression que nous ne comptons pas. Or, c'est à nous de donner de la valeur à nos populations, à nos pays, à nos souffrances.
Merci, Mac Gardi. Diana, est-ce que vous êtes là?
Je suis là.
Voilà. Moins on en parle, plus les populations se sentent abandonnées et frustrées. Et ce sont, n'est-ce pas, ces frustrations, hein, selon les experts, que les terroristes exploitent. Comment, à votre avis, peut-on amener les médias à donner priorité à ce genre d'informations qui font état, n'est-ce pas, des massacres des civils?
Ben, je crois qu'on est dans un contexte de paradoxe. D'abord, on est dans un contexte où la censure est très efficace, mais au même moment, il y a eu une forme de désintéressement qu'on ne sait pas dire. La plus grande maladie de médias de la RDC aujourd'hui, c'est que la question de la guerre de l'Est, on s'accommode un tout petit peu. Vous verrez que même dans la posture de politique, on commence bien quand l'élément fatal arrive. Dans les 2, 3, 4 mois qui arrivent, on en parle régulièrement jusqu'à ce qu'on s'habitue. Et malheureusement, c'est ça la réalité de la contexte de l'Est, du contexte de l'Est, pardon. Et le média aujourd'hui, pour la plupart, on a déjà un espace polarisé. Il y a ce soir, on est médias proches du pouvoir, sans les médias proches de l'opposition. Et malheureusement, cette polarité influe sur la qualité et sur les orientations dans les informations de la question de l'Est. Je crois que sur la question des médias, c'est vrai, on peut parler de la responsabilité, mais il n'y a pas que le média dans ça. Il faut voir également quelle est la posture de politique sur cette question. Si le pouvoir central, qui doit gérer cette situation sécuritaire au quotidien, semble ne pas s'ouvrir ou ouvrir ses sources pour pouvoir informer réellement sur l'évolution de choses, je ne vois pas qu'est-ce que les médias peuvent faire. À la limite, aujourd'hui, il y a un média un peu plus sérieux qui enverrait des enquêtes sur place pour dire ce qui ne va pas sur place. Je ne suis pas sûr que ces médias-là fonctionneront pendant 2-3 mois et ça sera mal vu. Et donc, je crois qu'il y a une forme de limitation dans le traitement de la question de la guerre de l'Est qui fait qu'aujourd'hui, Eh ben, c'est pour moi symptomatique de la réalité de la société et surtout de la question de gouvernance sur ce sujet de la guerre de l'Est. Mais seulement, encore une fois de plus, je demanderai aux médias de pouvoir s'y intéresser de très près, parce que sur certains médias continuent à le faire de plein pied, mais au gouvernement également de pouvoir un peu n'est pas trop taper sur la main de ceux qui iront dans le sens de pouvoir dire des choses qui ne marchent pas, parce que pour nous, je crois que c'est ça le contexte de l'information, et c'est pas fait dans l'idée de fragiliser le pouvoir, même si certains vont jusqu'à ces points-là, on va pas les encourager, mais c'est dans l'idée de pouvoir rappeler que le contexte est difficile et que ce gouvernement-là doit se bouger et pouvoir faire quelque chose. Donc pour moi, c'est une responsabilité partagée, mais aussi déjà de la jeunesse. Il y a un problème au niveau de la gestion de sources, mais également de la posture du gouvernement sur le traitement de cette question de la guerre de l'Est.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Tuko Mubinini de Gassiak Malaika et on se retrouve juste après. Gassiaka Malaika, dans cette chanson, se pose la question de savoir pourquoi cette situation, dans quelle situation nous sommes. Et c'est la même question qu'on peut se poser au sujet de ces massacres récurrents des civils dans la partie est, n'est-ce pas, de la RDC par les rebelles des EDF. On revient à l'actualité cette semaine, la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, a prolongé samedi 7 juin d'une année supplémentaire le mandat de la Guinée équatoriale à la présidence tournante de cette organisation sous-régionale. Une présidence qui devrait normalement revenir à Kigali. À la suite de cette prolongation, le Rwanda a décidé de se retirer de cette organisation sous-régionale, dénonçant l'instrumentalisation de la CEAC par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres. L'annonce faite par le Rwanda de se retirer de la CEAC constitue une nouvelle tension diplomatique entre Kinshasa et Kigali, ont indiqué plusieurs sources dimanche 8 juin. Cependant, il survient alors que les négociations de paix pour mettre fin à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC peinent à avancer. Louis Magloire Kemayou, vous êtes journaliste camerounais, vous êtes écrivain et président du Club de l'information africaine. Vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler du retrait du Rwanda de la CEAC. On vous écoute.
J'ai retenu ce sujet parce que pour moi, il est un sujet assez structurant par rapport à l'enjeu à la fois de la libre circulation sur le continent africain, qui a été quelque chose de souhaité et qui aujourd'hui commence à poindre son nez avec le projet de zone de libre-échange continentale africaine. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la gestion de la question de la sécurité sur le continent africain, ou plutôt de l'insécurité. Cette question est aujourd'hui si mal traitée que par moments on se retrouve dans des situations où, plutôt que de renforcer l'alliance entre les pays, la manière dont on gère ces sujets devient plutôt une source de diversion. Je prends pour exemple la situation dans le Sahel avec la lutte contre Al-Qaïda et puis toutes les mouvements terroristes qui sont nés et qui ont pris racine dans cette zone-là. La France est intervenue, les pays européens sont intervenus, finalement la Russie aussi est arrivée dans le jeu et on en est aujourd'hui dans une situation où les pays concernés se sont retirés de la CEDEAO, un espace où l'intégration semblait beaucoup plus effective qu'en Afrique centrale, et ont constitué l'Alliance des États du Sahel. Je pensais que ça allait être quelque chose de propre uniquement aux pays du Sahel, mais je me rends compte que l'Afrique centrale fait face à la même situation et que les mêmes causes produisent à peu près les mêmes effets. Je crois que nos pays doivent prendre beaucoup plus au sérieux les questions de lutte contre l'insécurité et de manière transfrontalière. Si nous n'arrivons pas ensemble à enrayer le problème, je pense qu'ensemble nous allons être victimes de ces problèmes-là. Non seulement ça hypothèque déjà le développement de nos pays, mais on s'en retrouve à des niveaux où même l'intégration n'est plus assurée, c'est-à-dire même devenir fort ensemble n'est plus possible. Je prends le cas encore une fois de cette CEAC. 11 pays très riches les uns et les autres. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que ce sont les moyens qui leur manquent pour lutter ensemble contre l'insécurité. Mais comment se retrouve-t-on à cet état de paralysie qui fait que même les populations qui ne savent rien de la manière dont fonctionne la CEAC n'ont plus aucune confiance dans l'institution et les pays n'ont plus confiance? À quoi servent ces institutions si elles donnent l'impression d'être là pour aggraver la faille de division qu'il y a entre nos différents pays? Moi, c'est la question que ça me pose parce que finalement, plutôt que d'aider à l'intégration, on a l'impression que ce sont des éléments aujourd'hui de division entre les pays. La CEAC voulait lancer sa zone de libre-échange. Je pense que le calendrier prévoyait que ce soit au mois d'août. Aujourd'hui, on ne parle plus de ce sujet. Le sujet qui est le plus important, c'est le fait que le Burundi et la RDC ont réussi à faire que la présidence de la Guinée équatoriale soit prolongée d'une année et que le Rwanda est exclu de l'organisation pour la deuxième fois.
Et à votre avis, est-ce que les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC qui avaient pris la décision de prolonger d'une année supplémentaire le mandat de la Guinée équatoriale, la présidente tournante de cette organisation, est-ce que ces gouvernements, ces présidents avaient d'autres choix face aux plaintes de la RDC qui a estimé que accorder la présidence de cette organisation sous-régionale au Rwanda embarrasserait la RDC dans ce sens que la RDC n'accepterait pas d'être reçue, n'est-ce pas, par le Rwanda, un pays qui officiellement l'agresse. Est-ce qu'ils avaient d'autres choix?
On a toujours le choix. Si c'était à notre niveau, en tant que population civile, sans aucune responsabilité, oui, j'aurais pu comprendre l'impuissance. Mais si nous faisons confiance à nos dirigeants et que nous leur confions la gestion de nos pays, que nous leur déléguons notre pouvoir pour agir en nos noms respectifs, à minima, ils devraient quand même être beaucoup plus astucieux qu'ils ne le sont jusqu'à présent. Ce n'est pas le cas. S'ils se rendent impuissants et choisissent la voie de la facilité, c'est à la fois irresponsable et inconséquent.
Merci Mike Gabdi. Diana, vous êtes journaliste et éditeur de médias Le Franc Tireur et Point Net et bâtisseur d'Afrique. À votre avis, quelles pourraient être les retombées vis-à-vis du Rwanda en se retirant de la CEAC, retombées positives ou négatives?
Merci pour la parole. Je crois qu'en termes de retombées Commençons par le positif, c'est que depuis un certain moment, le Rwanda a exercé une sorte d'influence sur la plupart des États de cette communauté. Il faut reconnaître qu'il avait quand même pris de l'avance sur le lobbying au niveau de cette sous-région. Vous n'avez qu'à voir les postures de certains États dans la question. Vous verrez que le Rwanda a fait un travail de fond. Et qu'aujourd'hui, le Rwanda décide de quitter, ça voudrait dire que l'équilibre de force en interne a déjà changé et qu'il laisse libre cours à la thèse ou encore au narratif congolais au niveau de la sous-région. C'est déjà ça le premier point positif. Le point négatif, peut-être, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la CAC, est-ce que la République démocratique du Congo risque n'est pas prendre ça pour acquis et finalement réduire sensiblement ses approches, notamment en termes de lobbying, mais surtout en termes d'accompagnement de la plupart de ces États. Mais pour moi, je pense qu'il y a plus d'avantages à tirer que des inconvénients par le retrait du Rwanda de la CAC, parce qu'il ne faut pas oublier, on a eu beaucoup de mal à pouvoir nous imposer dans ces débats au niveau de cette communauté, et qu'aujourd'hui nous prenons de l'ascendance, et qu'aujourd'hui le narratif congolais soit l'élément principal qui soit vendu, que la plupart de ces États adhèrent à la cause congolaise, pour moi c'est le premier élément essentiel. Mais je reste sur ma soif, quand je dis, au-delà du lobbying, au-delà des approches choisies par la RDC doit mettre un accent particulier sur les approches militaires, parce que pour moi, c'est bien de gagner dans les approches systématiques, mais il faut faire en sorte que le rapport des forces militaires soit également de mise. Et je sais qu'on est parti sur une approche avec les États-Unis pour conclure un accord, mais au-delà de ça, ne donnons pas aux autres l'occasion de croire qu'on est aussi fragile et aussi faible et que nous ne sommes pas capables de défendre notre intégrité territoriale. Si tant est qu'on n'est pas le moyen de se faire pour pouvoir renverser la tendance militaire, mais qui est quand même un rapport de force qui ne permet pas aux rebelles de dormir sur leur laurier. Mais sinon, pour moi, le retrait du Rwanda est la preuve que le lobbying congolais a fait son travail et que la sous-région, qui pour moi était une caisse de résonance d'une politique supra-internationale, commence à comprendre la nécessité d'avoir la paix en RDC, qui gage des faits et des prospérités pour cette sous-région. Je ne cesserai jamais de le dire ainsi.
Merci Jean-Romas Mokolo, journaliste indépendant. Peut-on dire que cette décision des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC de prolonger les mandats de la Guinée équatoriale d'une année supplémentaire, est-ce qu'on peut dire que c'est une façon pour l'Afrique centrale de désavouer le Rwanda pour son action dans l'est de la RDC?
Bon, on peut le dire de cette manière, mais la réalité est que les conflits entre les Rwandais et la RDC s'est transporté au niveau de la CAC. Parce que la RDC et le Burundi ont dit, si jamais on passait les relais au Rwanda comme pour assurer en fait la présidence annuelle de l'organisation, et ils ne vont pas assister à des réunions sur le territoire rwandais. Alors on a retrouvé comme ça deux pays qui étaient dans un camp contre le Rwanda. Je pense qu'on a dit, bon, est-ce que doit-on donner cette présidence au Rwanda et voir les Burundi et la RDC ne pas participer aux travaux de la CAC, donc s'écarter de la CAC, pour faire plaisir au Rwanda? Je crois qu'on a estimé qu'on pouvait se débarrasser du Rwanda et laisser la RDC et les Burundi continuer en tout cas à œuvrer au sein de cette organisation. Mais ce que ça va avoir comme conséquence, c'est quoi? Ça va encore durcir un peu les rivalités entre la RDC et le Rwanda, et ce qui va faire en sorte que même des solutions à trouver dans la guerre que le Rwanda est en train de faire contre la RDC va être difficile, parce que les relations continuent en tout cas à être tendues, et les deux pays partout se retrouvent dans les grandes organisations internationales. Ils se font pratiquement la guerre sur le plan diplomatique, ce qui fait que ceux qui sont chargés de pouvoir arrondir les angles entre les deux pays auront en tout cas des difficultés pour pouvoir rapprocher les points de vue et ramener les deux pays en tout cas sur une table de négociation, arriver à une solution négociée à leur conflit. Ça c'est ma lecture, ça c'est mon point de vue, parce que quand deux entités, deux États sont en conflit, sont en guerre par exemple, et qu'on plaide pour une solution négociée, mais quand ces deux pays-là continuent à poser mutuellement des actions hostiles l'un contre l'autre, ça a comme conséquence en tout cas le durcissement de ces conflits, la radicalisation de chacun des deux parties, et ce qui fait que pour avoir des solutions pacifiques à ces conflits, ça va être en tout cas difficile. Ça, mon inquiétude par rapport à cette situation. Sinon, bon, apprendre que le Rwanda a été mis à mal par la RDC sur le plan diplomatique, je crois que c'est quand même une bonne chose. Je crois que ce n'est qu'une revanche que les Congolais sont en train de prendre petit à petit sur le Rwanda, qui est en train aussi d'être lâché par ses alliés sur le plan international. C'est quand même une bonne chose pour la RDC. Mais on ne peut pas dire qu'à travers une telle victoire diplomatique, la RDC sort totalement gagnante, parce que pour que la RDC gagne totalement sur le Rwanda, il faut que sur le plan militaire, nous puissions arriver en tout cas à renverser les rapports de force.
Merci, chers auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Ce vendredi 13 juin, c'était le jour anniversaire de naissance de Fabrice Mouyulu, alias Fabregas, le métis noir. Fabregas, c'est ce chanteur, auteur, compositeur, interprète et producteur congolais. À cette occasion, on va écouter l'une de ses compositions intitulée « Mon pépé ». On revient juste après.
Jojo Mbunda Imen, bourgeois humble, bosser, prêtre et un monastère, taille avantageuse, veut dire silencieux quoi. Papa la Calvin, Jacob Inatan Gunda, Babi Bouy, maman Kondi à Bordeaux.
Amour na yue zo nyokola, na yi koleka, moto wa katani makolo na train en pleine vitesse.
Docteur Huguet Albini, Karine Ambroisine, El Madre, coach de mode, Sa Majesté, premier chancelier des Bundes.
Bonsoir, Nazala, Kimwa, Nazala, Oyo, Achoua, Katero, Lelo, Komissi, Natati, Kena, Bolimo, Jojo, Wapi, Malo, Bessala, Kyotia, Kinyana, Motema, Yamo, Bolimo, Soke, Kenyi,
Il est au Milonga, Yves Kongolo, Nicole Bosombe a aimé Monia. Wesley,
Eva Marie Yves Kongolo,
Benito de Genève,
Marcelo Cavanda,
Maître Maurice Loma, Yannick Chimela Matuda,
Roger Paca,
Benny Tengesso, Wapi Claudia Sassoïka,
Dani Mamba,
Madame Aïta Yakobeta, Lissolo, Mabato Teo,
Fabrice Namaza,
Romani.
Christian Dongosi, Mardoché Cruz, Maître Samso Zimagola.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Nous revenons dans cette émission Regard sur la côté de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la semaine de semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet du nouveau massacre des civils à Lubero dans le Nord Kivu par les EDF. Nous avons également analysé le retrait du Rwanda de la CEAC. Participe à cette émission, Jean Romance Mokolo, il est journaliste indépendant, Mike Gardi Diana, il est journaliste et éditeur des médias franc-tireur.net et bâtisseur Afrique, et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. La RDC a suspendu fin février les exportations de cobalt pour une période initiale de 4 mois. Les Chinois se moquent. Devenu en 2023 le premier producteur mondial du cobalt, continue d'extraire ce métal en RDC malgré la suspension temporaire des exportations imposées par le gouvernement depuis fin février 2025. La RDC a suspendu temporairement l'exportation de ces minerais stratégiques pour la fabrication des batteries en raison d'une surproduction et d'une baisse des prix. Cette mesure a été prise pour stabiliser les marchés et contrer la chute des prix. L'interdiction de l'exportation de cobalt a été initialement prévue pour 4 mois, mais pourrait être prolongée. Mike Gardi Diana, vous avez souhaité nous parler des forces et faiblesses de l'arrêt de l'exportation du cobalt congolais. On vous écoute.
Merci pour la parole. Je crois qu'on est revenu sur cette thématique parce que au moment où je vous parle, on a eu la chance de la journée d'hier jeudi avec la première ministre de la BKCC, où la société a également présenté le même problème que seulement comme vous venez de l'évoquer sur cette mesure temporaire de suspendre les exportations de cobalt. La décision résulte du fait que la RDC voulait avoir une certaine maîtrise sur le prix, et à ce niveau-là, il y avait une vraie difficulté, parce que je vous rappelle que le prix du cobalt s'est vendu à un prix un peu plus bas que d'habitude, à 20 000, ce qui a occasionné une perte énorme pour la République démocratique du Congo. Dans cet effet-là, il fallait trouver une réaction logique. Et je crois que la RDC a adopté la stratégie à sa portée. Il est vrai que si vous demandez à beaucoup d'experts, on estime qu'aujourd'hui, la meilleure stratégie au monde pour pouvoir réguler le problème de prix, c'est aller sur la stratégie de quota. Mais malheureusement, la notion du quota sur l'exportation de matières stratégiques dépend également de l'influence de l'État sur la production. Et malheureusement, vous le savez que ce secteur-là est essentiellement dominé par les firmes internationales. Pardon, et malheureusement, le contrôle n'est pas entre les mains de l'État congolais. Donc aujourd'hui, il était nécessaire de pouvoir stopper un peu cette surproduction, particulièrement avec la Chine, principal importateur de ce matière. Et donc aujourd'hui, l'une des raisons qui justifie que cette décision a apporté des résultats, on a quitté, ça fait 4 mois parce que la mesure tombera le 22 juin prochain, on a quitté de 20 000, un peu plus de 20 000 dollars la tonne à 34, ça veut dire que la tendance est haussière, ce qui justifie que cette décision a pris quand même une courbe positive. Bon, au-delà de ça, il faut rappeler qu'on a dû compter sur nos partenaires, et ça malheureusement, il faut saluer le travail fait par le gouvernement congolais, particulièrement la première ministre, qui a eu le courage de discuter avec la plupart des opérateurs, question de leur faire comprendre la nécessité de cette mesure. Et ils ont tous obtempéré et adhéré à cette mesure parce que la crainte, c'était de subir la réaction de ces opérateurs qui risqueraient de fragiliser le marché. Et donc aujourd'hui, il faut dire merci. Et on a également eu, par cette mesure, prouvé la valeur de la RDC dans le marché mondial. C'est vrai, c'est pas pour rien qu'on est parmi les principaux producteurs de cette matière stratégique, si pas le premier producteur. Mais au-delà de ça, la RDC a pris une politique convenable qui nous permet aujourd'hui de récupérer le manque à gagner dans la collecte, surtout pour une économie de Cayenne qui dépend essentiellement de ces matières extractives. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a lieu de pouvoir saluer cette mesure-là. Mais c'est une mesure qu'on ne pourra pas utiliser à chaque fois si on ne sait pas trouver des politiques un peu plus structurantes. Et donc c'est pourquoi moi je pense qu'il est à lieu de pouvoir renforcer des mesures. Question de permettre à la République de mieux maîtriser ces histoires-là, ça nous permettra par l'approche de quotas d'éveiller sur la quantité de nos exportations et éviter une sorte de surproduction mondiale qui fragilise le prix parce qu'on n'a pas la maîtrise sur la fixation de prix. Et donc pour moi, le choix de ce sujet aujourd'hui, je le choisis parce que pour moi, c'est le symbole d'une certaine résilience. Et aujourd'hui, le monde a compris la nécessité de ressources de la RDC. Et la RDC aujourd'hui a pris conscience de son rôle sur le marché mondial. Et qu'aujourd'hui, c'est à nous maintenant de pouvoir tirer profit de cela, et surtout en perspective des accords qu'on veut signer avec les États-Unis, de comprendre que le monde aujourd'hui a besoin de nous et qu'il ne faut pas forcément qu'on aille en position de faiblesse. Et que maintenant, là, on a des ressources pour faire valoir et n'est pas encore une fois de plus raté les révolutions comme on en a raté dans l'histoire. Je ne vous parle pas de l'industrie de l'automobile avec les caoutchoucs, je ne vous parle pas de l'industrie de l'arme nucléaire avec l'uranium, je ne vous parle pas de l'industrie du coltan avec le téléphone portable, je ne vous parle pas également de l'industrie du numérique aujourd'hui avec l'uranium, mais également les autres matières comme le lithium. Aujourd'hui, la RDC a trouvé au bon, on a la possibilité d'avoir le contrôle de nos matières et de pouvoir imposer une ligne. Et pour moi, c'est déjà un point de départ convenable pour un État qui veut aller vers de nouvelles finalités.
Voilà. Et comment vous comprenez cette stratégie de l'entreprise chinoise CEMOC qui, en dépit de cette interdiction, a continué, n'est-ce pas, à produire et a même augmenté sa production, continuer à produire sans exporter? Comment vous comprenez cette stratégie?
Mais je crois que le problème, c'est que l'entreprise CEMOC est dans une approche anticipative. On a interdit l'exportation, c'est une mesure temporaire, mais on n'a pas interdit la production. Le danger, c'est que CEMOC, par exemple, c'est un géant chinois, et au niveau de la Chine, vous connaissez que la Chine est la principale consommatrice de ces ressources stratégiques-là, et donc c'est une manière pour CEMOC de pouvoir en avoir suffisamment en réserve, parce que on sait que la mesure doit tomber le 22 juin. Le problème, c'est pas tant dans la production, mais le problème, c'est dans l'exportation. C'est bon qu'à respecter la règle de ne pas trop exporter. C'est ce qui justifie le fait que sur le marché, il y a eu justement cette baisse au niveau de la production qui a permis à ce que le cobalt retrouve petit à petit son prix. On est parti de 20 dollars la tonne jusqu'à maintenant 34. Et on espère que ça pourra, cette tendance aussi, elle va continuer. Mais dans le fond, on ne va pas blâmer ces banques pour la production parce qu'on n'a pas interdit la production. Mais l'essentiel, c'était de pouvoir réagir positif. Et aujourd'hui, avec l'ouverture, la crainte maintenant, c'est quelle est la quantité produite par ces banques? Est-ce qu'une fois cette production injectée sur le marché, elle ne pourra pas encore une fois de plus plomber le prix parce qu'il ne reste pas encore de créer cette surproduction? À l'État congolais de veiller cette fois-ci sur la quantité exportée et le faire de manière progressive et de manière définie pour que finalement, ces banques ne remettent pas sur le marché un surplus de production de cobalt. Donc pour moi, tout dépendra, pas en amont, mais en aval, de ce que la RDC pourra prendre comme mesure. J'ai salué une dernière fois l'inspection générale de mines, telle que proposée par un ami de Dan Kabasele, qui malheureusement a été appliquée d'une autre manière. Je crois que c'est dans ces pareilles situations qu'on pourra voir l'efficacité de cette inspection générale de mines dans le contrôle sur l'exportation et dans la gestion des stocks des différentes sociétés. Pour moi, le problème n'est pas à ce niveau, le problème est plutôt au niveau du contrôle de l'exportation de la quantité produite par nos États-Unis par ce géant chinois.
Merci Louis Bangloire Kemayou. Quel gain la RDC peut obtenir en suspendant momentanément l'exportation de ces minerais? Quand on sait qu'on n'est pas l'unique producteur de ces minerais, même si on est l'un des plus importants.
Dans une perspective très courte, c'est déjà la possibilité de renégocier dans de meilleures conditions le prix de vente à l'international. Mais je crois que ce serait une courte victoire que de se satisfaire de cela. Parce que pour moi aujourd'hui, en RDC, comme dans la plupart des pays africains qui vivent des industries extractives majoritairement, L'enjeu, c'est pas seulement d'exporter. L'enjeu, c'est d'arriver à un certain moment à pré-transformer, voire de transformer complètement sur notre territoire, parce que c'est la seule façon de créer une chaîne de valeur autour de nos produits. Parce que si nous produisons et que nous vendons à l'état brut, la valeur ajoutée sera faite ailleurs, auprès de ceux qui transforment, qui emploient des personnes pour le faire et qui, en plus de cela, commercialisent à des prix très élevés. Donc si, pour moi, l'enjeu est important aujourd'hui de savoir qu'on reprend la main, c'est pas juste pour revendre de la même manière que pendant la période coloniale, c'est d'arriver à transformer, c'est d'arriver à imposer que les acheteurs créent un peu de richesse autour de nous, créent un peu de valeur ajoutée et rendent à la fois l'État et les populations un peu plus riches de ce qui est leur propriété, c'est-à-dire les produits de leur sol.
Merci Jean-Romance Mokolo. Par rapport à la compétitivité, que doit faire la RDC pendant ces temps pour ne pas être préjudiciée, n'est-ce pas, sur les marchés internationaux?
Je dois d'abord relever le fait que comme conséquence, je crois qu'il y aura aussi une réduction des recettes douanières, parce que quand on exporte tous ces minéraux, on paye au niveau de la douane et l'État a des recettes. Je crois que sur le plan des recettes aussi, il y aura en tout cas quand même une réduction par rapport à cette interdiction de pouvoir exporter les minéraux de cobalt pendant 4 mois. Bon, sur le plan international, le grand problème que nous avons, c'est que nous, les États producteurs, nous ne fixons pas les prix de vente de ce que nous produisons. Ce qui est malheureux, c'est cela. Et je ne vois pas le fait, par exemple, de bloquer les exportations peut vraiment à long terme nous être bénéfique. Je ne crois pas, parce que comme l'a dit Kemayo, les confrères du Cameroun, l'idéal aurait été que nous puissions en tout cas installer l'industrie des transformateurs sur place pour que nous puissions ajouter de la valeur à nos minéraux. Mais quand on les exporte à l'état brut, bon, ce sont les autres qui en profitent. Donc je ne vois pas vraiment nous là en train de peser. Ce sont beaucoup plus les grands exportateurs, par exemple du pétrole, qui, quand par exemple ils baissent les quotas de production ou d'exportation, ça a vraiment un impact très très énorme sur les prix, et puis il y a des négociations. Mais aujourd'hui là, le cobalt n'est pas encore arrivé au stade où c'est un produit de grande consommation comme le pétrole qui se consomme presque chaque jour. Je crois qu'on n'a pas en tout cas beaucoup de marge de manœuvre sur ce genre de décisions. Ce que nous devons faire pour que nous puissions avoir suffisamment d'argent dans notre budget, il faut diversifier l'économie. Nous devions penser aussi à l'après minéraux, parce que les minéraux sont des produits et des ressources épuisables, quoi. Nous devons diversifier d'autres économies et surtout penser aussi à développer l'agriculture, l'élevage, la pêche et tous ces autres filières de production pour que nous puissions en tout cas avoir beaucoup de sources de revenus, mais pas nous contenter seulement à compter sur les ressources naturelles pour pouvoir en tout cas financer notre budget national.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Nakei Abidjan avec Dr Nico Kassanda et on se retrouve juste après.
Yeah. Bijana Keita Dora, Nakomina Kwake, Oma Naya Musuku, Barubina Kwai Mama Okaruki, Musika Nazali, Nakone Lalela, Soda Mama Sali Mande, Soki Naboyo Lelo, Okosuka Wapi, Zalana Nuna Makanisi. Balekina yon pe babi makana lo pango na dino na tango ngana li baka pe malo baka yo yo seme ki sangana e mbali ya ya ya. Munga munga yo yo munga loba namure komi na suka koko yase ida bani na kwake kati ndeli yo mate munga suki toko banda na yo neyo kitoli ya bato munga munga yo.
C'était Nakia Abidjan avec Dr Nico Kassanda, le docteur de la guitare avec sa guitare hawaïenne. Je rappelle que nous avons dans cette émission Jean-Romance Mokolo, il est journaliste indépendant, Mike Gardi Diana, journaliste et éditeur des médias lesfrancs-tireurs.net et Bâtisseur Afrique, et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Le président Félix Tshisekedi avait annoncé il y a quelques mois la mise en place d'une commission ad hoc chargée d'évaluer l'état de la voirie et des systèmes d'assainissement à Kinshasa et ailleurs. Cette décision était consécutive aux visites d'inspection où il avait constaté l'envahissement des avenues par des marchés informels, l'insalubrité et l'impraticabilité des routes. Cette commission avait comme mission d'identifier les défaillances structurelles et les caniveaux bouchés, les constructions illégales sur les voies d'évacuation et proposer des solutions durables. Jean-Romance Mokolo, vous avez justement choisi de nous parler de la problématique des luttes contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. On vous écoute.
Oui, je rappelle tout simplement que le 5 juin dernier, le monde entier a célébré la journée mondiale de l'environnement et ça nous permet en tout cas, je crois, de pouvoir réfléchir sur notre environnement. Mais comme vous l'avez indiqué, les autorités ont fait le constat aussi. Nous vivons dans un environnement très très sale ici à Kinshasa. À l'époque, quand nous grandissions, quand on balayait la parcelle, on balayait aussi la route. Et tout était propre, chaque parcelle avait sa petite poubelle. Et on savait comment évacuer ça. Mais aujourd'hui, tout est jeté sur la voie publique. Les caniveaux sont devenus des dépotoirs. Avec la prolifération des marchés pratiquement à chaque coin des rues, devant chaque parcelle, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit dans ces petits marchés-là des fortunes pirates est jeté dans les caniveaux. Conséquence, vous avez en tout cas de la saleté partout et on a du mal même à circuler à Kinshasa parce que quand vous circulez, vous jetez le regard à gauche, à droite et vous vous retrouvez devant la saleté. Guimaté, il y a par exemple des gens qui n'ont même pas de fosse septique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent par exemple des toilettes et où toutes les matières fécales sont directement déversées soit dans les caniveaux, soit sur les différentes cours d'eau de Kinshasa. Et quand il pleut, bon, la pluie vient, ramène tout ça. Mais aujourd'hui, par exemple, comme nous sommes pendant la saison sèche, donc tout ce qui est rejeté dans ces toilettes de fortune se retrouve dans les caniveaux non évacués, se retrouve dans ces cours d'eau. Et quand vous passez, en tout cas, il y a une odeur insupportable qui se dégage. Et même ce qui est même grave, quand vous allez par exemple au niveau de la 7e rue, je fais là un état des lieux, vous voyez les terrains vides là, là où il y a des artisans, un petit caniveau, et c'est plein de matières fécales. Donc, je me pose la question de savoir, est-ce que le manque d'hygiène, est-ce que l'insalubrité, est-ce que la saleté, sont en tout cas dans l'ADN des quinoa ou comment je n'arrive pas à comprendre. Donc voilà un peu ça l'état des lieux. Bon, la responsabilité est partagée, comme on peut le dire. Il y a la population qui jette de la saleté partout, qui n'a pas en tout cas un bon comportement sur le plan du respect de l'environnement. Mais in fine, c'est l'État qui est responsable parce que l'État doit veiller à ce que les gens respectent les règles d'hygiène et de salubrité. Parce que le non-respect de ces règles a comme conséquence quoi? La prolifération de beaucoup de maladies des mains sales, beaucoup de maladies qui sont dues à la saleté. Les conséquences, comme vous l'avez indiqué aussi, Guy Maté, c'est le fait que les caniveaux sont bouchés par des déchets ménagers, par des déchets en plastique. Les cours d'eau sont bouchés également, ce qui fait que quand il pleut abondamment, les eaux débordent, il y a des inondations, il y a des morts, il y a beaucoup de catastrophes. Pour vous en convaincre, vous avez vu par exemple ce qui s'est passé dernièrement ici à Kinshasa avec des sinistrés, il y en a qui se retrouvent aujourd'hui au stade des martyrs, d'autres au stade de Tarapal. Donc voilà un peu ma préoccupation. Donc la base se trouve dans les camps des autorités. Et comme remède à cette situation Guimaté, je crois qu'il faut commencer par la sensibilisation. On doit mener une vaste campagne d'éducation à la gestion de l'environnement à la population de Kinshasa. Et ça, c'est ce que j'appelle la carotte. Et à ceux qui ne peuvent pas respecter les normes d'hygiène et de salubrité après cette campagne, il faut appliquer aussi le bâton. Le bâton, ce sont des sanctions, des amendes qu'on infligerait à quiconque lorsque les services d'hygiène passent chez vous, trouve que vous vivez dans un environnement insalubre et que vous ne savez pas le mettre, en tout cas rendre propre, et que on vous trouve par exemple en train de jeter des immondices dans les caniveaux sous la voie publique, et on trouve que devant votre parcelle il y a de la saleté, il y a des déchets domestiques qui sont jetés, on vous arrête, on vous fait payer des amendes, ça permettra à l'État d'avoir suffisamment d'argent en tout cas en termes d'amende. Autre chose à faire, il faut maintenant construire, mettre en place des poubelles partout, avec des véhicules qui passeraient pour récupérer tous ces déchets. Et je crois que pour ça, on peut aussi imposer une taxe de salubrité à tous les ménages de Kinshasa, par exemple, parce que ça va financer cette opération d'évacuation, de tri et même, par exemple, d'incinération de tous ces déchets. Et concernant, par exemple, les déchets plastiques, nous avions un projet ici, Kintoko, qui rachetait par exemple les bouteilles en plastique et qui doivent être recyclées. Il va falloir qu'on puisse, par exemple, pour les producteurs de ces bouteilles en plastique, il faut relever en tout cas les taxes que ces gens-là paieraient, qui vont servir par exemple à pouvoir rémunérer tous ceux qui vont rapporter les bouteilles en plastique pour que ça soit en tout cas recyclé. Merci. Et ce qui est déplorable, nous avions ici un projet paro avec l'Union Européenne qui marchait très bien, où il y avait des centres de collecte de déchets partout. Mais quand l'Union Européenne a cessé de financer ces projets, nous-mêmes nous n'avons pas en tout cas réussi à poursuivre ces beaux projets, et aujourd'hui ces projets-là sont pratiquement complètement arrêtés, et aujourd'hui les gens ne savent même pas où jeter les immondices, les gens ne savent même pas où comment Zougat se débarrasser de leurs déchets ménagers.
Merci.
Voilà un peu la problématique qui m'a préoccupé du matin, et c'est vraiment quelque chose que l'État ne doit pas négliger, parce que nous vivons dans un environnement insupportable. Quand vous voyez ce qui se passe dans d'autres villes du monde, on peut circuler dans un quartier, on prend de l'air, on s'assoit dans un parc, mais chez nous ici, partout où vous passez, il y a de la saleté. Même dans la commune de la Gombe, je suis passé à l'Isti, actuellement appelé Ifassi, qui est une ici, mais j'ai vu que cet environnement de l'Isti, de l'ex-Isti, qui se situe dans la commune de la Gombe, est devenu comme si c'était... j'ai eu l'impression de vivre à Mokali, j'ai eu l'impression de vivre à Kinshasa, à Souka, dans une bourgade de Kinshasa.
Merci.
Voilà qui m'atteint un peu ma préoccupation.
Merci, Jaromas Mokolo. Louis Magloire Kemayou, comment vous réagissez à ce tableau que vient de nous présenter le confrère Jean-Romans Mokolo?
Je pense que nos villes aujourd'hui, et nos autorités surtout, sous-estiment parfois la nécessité d'investir pour maintenir les gens en bonne santé et surtout dans un espace bien dans lequel ils peuvent se sentir bien et surtout s'épanouir. Quand on fait les campagnes de vaccination, nous avons tous grandi dans cet environnement-là où les gouvernements décidaient qu'on allait vacciner les enfants dans leurs écoles, dans leurs concessions, qu'il y a des camions qui passaient pour ramasser les déchets et qu'il y avait des journées pendant lesquelles on balayait à la fois nos maisons et la cour et qu'on s'arrangeait pour que le quartier soit propre. C'était pas fait juste pour déranger les gens. C'était pour faire reculer la maladie. Et aujourd'hui, si on est dans une disposition à développer nos pays, plus on a de malades, moins on a de mains valides pour développer le pays, et plus le quartier et la ville sont sales, moins il attire les touristes. Donc je pense qu'il n'y a que du négatif à laisser aller la situation telle qu'elle est aujourd'hui, et qu'il faudrait prendre le sujet à bras le corps en restaurant les bonnes pratiques, à commencer par les populations et le gendarme qu'est l'État, pour que ça se passe bien.
Merci Mike Gardi. Diana, nous allons finir cette émission avec vous. Comment on en est arrivé là quand on sait que nous sommes dans une ville qui a un gouvernement provincial, qui a une assemblée provinciale et chaque année il y a un budget pour justement assainir la ville de Kinshasa? À votre avis, comment on en est arrivé là? Allô, il y a moyen de bouger un peu, Mike? Allô, allô. Voilà, nous l'avons perdu, donc nous allons terminer par là. Et merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Louis Magloire Kemayou, Jean-Romans Mokolo et Mike Gardi Diana. Merci aussi à Billy Landry Betou qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, DJ Zadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Et nous allons nous séparer avec Tokoma Bakamara de Pamba de Franco Rambo Makiadi, chanson sortie en 1979 dans l'orchestre Ok Jazz, et on se retrouve le samedi prochain.
Mama, Kolanda te mokulu pamba e Sotyo moninga na ye Kolanda te mangungu pamba e Eba ma
Sotyo moninga na ye kolanda kate Sotyo moninga na ye kokipa kate Ata o moninga tobi mi kolanda kate Sokoma baka marane pamba e
Eh, 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 Eh mama,
so come ba camera de pamba eh eh eh, e marti la mamba le sina kala eh eh, so come ba camera de pamba eh eh eh, e marti la mamba le sina kala eh eh,
so ke moni ngana ye, solenga lenga pamba te, so ke moni ngana ye. Holanda te li pale kumba kalaro oh oh
to kumba na kamara de pamba eh 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 imansi na mabale sina kala eh eh to kumba na kamara de pamba eh 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 imansi na mabale sina kala eh eh
so jamo ni gana ye Holanda te mangungu pamba eh so jamo ni gana ye Holanda te li pale sila kala eh eh mama
Sokoma bakamara na pamba eh 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 Imansi na mabale sila kala eh eh Sokoma bakamara na pamba eh 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 Imansi na mabale sila kala eh eh
Sokoma moninga na ye Kotuna tuna pamba te Sokoma moninga na ye Holanda te li pale murakala ho oh oh
Sokoma na kamara na pamba eh 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 Imansi na mabale sina kala eh eh Sokoma na kamara na pamba eh 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 Imansi na mabale sina kala eh eh
Sokoma moninga na ye Holanda te mungulu pamba eh Sokoma moninga na ye Holanda te mangungu pamba eh eh mama
Sokoma bakamara na pamba eh 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 Imansi na mabale sina kala eh eh Sokoma bakamara na pamba eh eh Imansi na mabale sina kala eh eh
Sokoma moninga na ye Kolenga lenga pamba te Sokoma moninga na ye Holanda te li pale sila kala ho oh oh
Sokoma bakamara na pamba eh 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 Imansi na mabale sila kala eh eh Sokoma bakamara na pamba eh 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 Imansi na mabale sila kala